pertinent. Monsieur le professeur Tosi, qui est professeur à l'université Montpellier III, Paul Valéry. Madame Christiane Moreau, qui est professeur à l'université de Lausanne. Et moi-même, Christian Lagarde, professeur d'espagnol et sociolinguiste à l'université de Perpignan. Voilà, donc je vais vous annoncer un petit peu le menu du jour. Pour des raisons d'horaire, hein, nous ne ferons pas de pause. Alors donc, j'espère que tout le monde... MP30, comme on dit d'habitude, Joël Cordès, donc, va nous présenter son travail de thèse. Hein, pendant une...
A priori et avant tout, ce qui a motivé ma recherche. Et d'autre part, quant à la méthode de recherche qui m'a servi à conduire cette recherche didactique et qui a été et qui reste la mienne, et qui est la démarche d'autosocioconstruction que j'ai découverte avec le GFL, le Français d'éducation nouvelle. Donc le travail que j'ai fait avec la sémiotique et dans le cadre de la sémiotique m'a permis de mettre à distance aussi cette démarche en la comprenant mieux, en pouvant en faire une critique d'un point de vue épistémologique. Un aboutissement provisoire sans doute sur le pôle théorique d'une recherche qui n'est pas que théorique, qui n'est pas a priori théorique. C'est-à-dire que cette recherche a commencé dans un premier temps de la part d'un professeur d'anglais qui était confronté à la difficulté immense d'enseigner l'anglais de telle manière que ses élèves réussissent à l'apprendre. C'était ça le gros problème que je pense beaucoup parmi vous ont déjà rencontré en tant qu'élèves, en tant que parents ou en tant qu'anciens élèves ou enseignants même. On sait que c'est bien difficile d'enseigner l'anglais, et en tout cas on sait que c'est bien difficile pour des gens qui sont en tâche de l'apprendre. Donc moi je me suis retrouvée quand j'étais jeune enseignante dans une époque où à la fois il y avait ce sentiment d'impasse totale par rapport à l'enseignement de l'anglais et une espèce d'espoir un peu extraordinaire dû au développement des nouvelles technologies, le magnétophone dans la classe, les méthodes audiovisuelles. Et on avait un peu le sentiment de quelque chose, d'un miracle qui allait se produire et qu'on allait savoir enseigner les langues, en particulier l'anglais, on savait faire, c'était la révolution. Or, tout le monde a été bien déçu, en tout cas moi personnellement, la première, et les personnes qui m'accompagnaient dans ma formation d'ailleurs, qui disaient qu'on ne savait pas comment il fallait faire. Donc du côté de la didactique qui était à l'œuvre à l'époque, ou du côté de la recherche universitaire, j'ai bien cherché un peu comment faire pour trouver des solutions, et c'était un peu l'impasse aussi du côté de la théorie de l'enseignement, de l'apprentissage. On manquait cruellement d'une véritable épistémologie du savoir linguistique. Donc, bon, il se trouve que j'ai rencontré par hasard, j'ai eu la chance de rencontrer le GFEN, donc dans le cadre d'une formation professionnelle, qui était la formation continue des enseignants, et j'ai découvert la démarche, donc, qui est une forme d'enseignement, qui, à ce moment-là, était en train de se transformer en forme de formation d'adultes, de formation de formateurs, venant du primaire, c'est-à-dire que ça avait été inventé dans le primaire et c'était en train de se transformer en... On avait inventé une méthode, une démarche, une situation qui était valable et qui faisait que les gens bougeaient dans leur tête, se posaient de nouvelles questions. Et il y avait un outil qui faisait réussir les élèves, en particulier les plus mauvais. C'est ce qui se disait, et si effectivement ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai été confrontée à cette démarche qui est relativement magique en apparence, puisque elle transforme réellement les conditions d'apprentissage des gens. Voilà. Alors la question qui se posait pour moi, c'était est-ce que j'applique la démarche telle qu'elle existe à l'enseignement des langues? Il se trouve qu'il n'y avait rien au GFEN sur les langues, il n'y avait rien sur l'enseignement, comment enseigner les langues avec la démarche, ou sur les savoirs linguistiques. Et donc, le choix qui a été le mien, avec le groupe de personnes avec qui j'ai travaillé à ce moment-là, ça a été de prendre la démarche telle qu'elle était comme démarche de formation d'adultes et l'utiliser comme outil de recherche, c'est-à-dire de l'utiliser comme situation pour nous mettre nous-mêmes en recherche et nous mettre nous-mêmes en travail sur nos conceptions des langues et sur nos conceptions de l'apprentissage. Et ça, c'est la première étape de ma recherche, qui est vraiment une recherche assez aboutie sur le plan de l'élaboration des hypothèses, puisqu'elle m'a quand même amené à élaborer une forme d'enseignement qui marche. C'est-à-dire que les élèves, je ne dirais pas que mes élèves... c'est aussi une question de regard sur les résultats, mais ce qui est certain, c'est que les élèves modifient leur comportement par rapport à la langue, ils acquièrent un comportement dynamique et un peu plus conquérant, et en tout cas, ils se donnent des stratégies. Et voilà. Donc ça m'a amené, moi, cette première phase du travail m'a amené à faire... à élaborer des stratégies et à modifier la conception qu'on pouvait avoir du savoir linguistique pour passer d'une idée et des contenus d'enseignement, pour passer d'une définition des contenus d'enseignement en concept clos à transmettre. Ça, c'est un peu la conception traditionnelle qui continue de se manifester dans les programmes, dans les progressions qui sont présentées dans les programmes. Donc la transmission de concepts qui, une fois acquis, devrait permettre une pratique réussie de la langue. Je suis passée à l'idée d'une définition des contenus en termes de stratégie et de comportement moniteur. Et alors, à partir de... Bon, par exemple, peut-être je peux donner quelques exemples sur ce pôle de la question didactique. Est-ce que, par exemple, voilà, qu'est-ce qu'une véritable parole qui construit véritablement de la langue? Puisqu'on nous dit, on nous disait, il faut qu'il parle pour qu'il apprenne l'anglais, il faut qu'il parle anglais, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire parler? Est-ce que les exercices structuraux, est-ce que les choses mécaniques, est-ce que les répétitions, ça construit réellement, comme le béhaviorisme nous l'avait fait croire ou enseigner, est-ce que ça construit du savoir? Ou est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut mobiliser pour qu'il y ait réellement une construction de savoir dans la langue? Donc ça, c'était une première interrogation, et ça nous a amené à affirmer et à asserter alors vraiment la nécessité de la présence, de la mobilisation du sujet dans son apprentissage, et de réintroduire la personne avec ses dimensions corporelles, son désir inconscient dans l'apprentissage. Donc ça, c'est une des premières découvertes, mais qui n'est pas isolée de l'idée de la conquête de la norme. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est engagé en tant que sujet dans son apprentissage qu'on peut accéder à une norme qui va être un savoir efficace. Et alors, quand je décris ce processus, le sujet qui construit son savoir de telle manière qu'il va être efficace dans la réalité, c'était bien la nécessité devant laquelle on se trouvait en tant qu'enseignante de langue, puisque... La rupture qui s'est produite dans l'histoire, ça a été quand même, on arrête d'enseigner l'anglais que pour que les gens aient une idée des contenus grammaticaux, de qu'est-ce que c'est que la langue anglaise, etc. Il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils écrivent, il faut qu'ils soient compétents, dans le domaine de compétence. Donc, il fallait reconsidérer la langue et se rendre compte que la langue, c'est pas des morceaux qu'on s'applique à articuler les uns avec les autres en situation de parole, mais que c'est une habitude. Une habitude, et une habitude donc à modifier en permanence, puisque c'est un jaillissement, et que le jaillissement, ça se forme. Comment est-ce qu'on peut former un jaillissement? C'était un peu la question. Voilà. Alors ça c'est peut-être pas un paradoxe, je ne sais pas. En tout cas, c'était une problématique qui a été extrêmement féconde, une des premières. La deuxième, ça a été la découverte que l'habitude existait déjà avant même qu'on ait commencé l'apprentissage de la langue. C'est-à-dire que si on met les gens en situation comme il faut, on s'aperçoit qu'ils ont des savoirs qu'ils ne connaissent pas et qu'ils savent savoir qu'ils sont de l'ordre de l'habitude, effectivement, qu'ils sont capables de produire des représentations de cette langue en situation. Ils ont des choses à l'intérieur d'eux-mêmes et la problématique de l'enseignant devient alors non plus de remplir le vase des connaissances qui manquent, mais attiser l'activité de l'apprenant, de l'élève, dans sa rencontre avec les textes, dans sa rencontre avec la langue réelle, c'est-à-dire la langue qui se présente à lui et qui, dans sa réalité, ce sont les textes. Donc voilà, ça c'est une deuxième problématique. Et la troisième, c'était qui rejoint celle-ci. Non, j'ai peut-être oublié la question de l'étrangeté dans cette deuxième partie là. La question qui se pose aussi, c'est on a un peu tendance dans l'enseignement à vouloir des langues étrangères, à vouloir que la langue étrangère devienne de plus en plus familière, c'est-à-dire à créer de la familiarité, à amadouer, à apprivoiser d'une manière qui est un peu effacer tout ce qui surprend, effacer l'étonnement, effacer ce qui relève de ce qui fait peur. Donc plutôt, est-ce que vraiment c'est le but dans le cadre d'une formation de la personne? Est-ce que le fait d'effacer ce qui fait peur est vraiment formateur? Ou bien est-ce que, bon, évidemment, vous comprenez que c'est mon hypothèse et que c'est sur cette piste que j'ai travaillé, développer la gourmandise de ce qui fait peur a priori, c'est-à-dire que ce qui fait peur peut aussi faire plaisir, hein, c'est-à-dire qu'on est là dans un rapport du sujet à l'autre, et que puisque ça fait peur, ça peut faire plaisir, donc on va pas gommer tout de suite ce qui fait peur, puisque c'est là-dedans que réside la seule possibilité qu'a la langue de nous intéresser. Voilà, donc ça c'était une deuxième série de problématiques et de pistes qui a permis des pratiques. Et puis la troisième, donc, qui va avec ça, c'était l'idée qu'on peut aller directement dans la langue avant de l'avoir apprise, bien sûr, puisque c'est disait, la réalité de la langue, ce sont les discours, ce sont les prises de parole, et non pas une langue abstraite qu'on ne peut pas toucher. Où est la langue? Quelle est la réalité de la langue? Sinon les discours, donc on ne peut pas enseigner quelque chose. Enfin, bon. En tout cas, la question, le pari qui était fait, c'était on doit pouvoir entrer directement dans une langue et puis comment on se débrouille. D'ailleurs, les seuls endroits où les langues s'apprennent réellement, c'est bien dans des pays, par exemple, où on constate en Afrique ou en Inde, enfin, des enfants très défavorisés, extrêmement défavorisés, apprennent 3, 4, 5 langues. Ils apprennent l'anglais très très bien, en particulier. Bon, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut être, entre guillemets, très, très sous-développé, hein, ou privé d'école pour pouvoir apprendre les langues. Et est-ce que vraiment l'école interdit l'accès aux langues? Est-ce que c'est une fatalité? Ou est-ce que... Bon, parce que ça, c'est une des réponses possibles. C'est dans le pays qu'on apprend les langues. Bon, on a fait aussi l'expérience inverse, où si on observe un peu la réalité, c'est pas vrai que dans le pays, on apprend toujours les langues. On a envoyé nos enfants dans des pays, ils sont revenus quelquefois sans avoir rien appris, en tout cas pas trop de ce côté-là. Et on a aussi le constat que des gens qui migrent dans un pays n'apprennent pas forcément la langue, ou ne l'apprennent pas forcément comme on voudrait, ou suffisamment, restent dans un certain niveau de maîtrise ou de connaissance de la langue qui est à peine de survie. Ou par exemple, même en parlant très très bien, continue d'avoir un accent, on se demande pourquoi il continue d'avoir cet accent. Enfin, c'est aussi quelque chose qui pose question, tout ça. Donc moi, j'avais envie, là aussi, c'est peut-être un parti pris, mais étant professeur dans l'enseignement public, étant membre d'un mouvement pédagogique dont le but n'est pas de faire des classes expérimentales à côté, mais de travailler à l'intérieur des conditions réelles de l'enseignement public, ou de l'enseignement... Oui, en général, ordinaire. Bon, la question, c'était est-ce que je peux renoncer à enseigner l'anglais dans ma classe? Ça ne me satisfaisait que très modérément. Et donc, voilà. Donc, j'ai décidé que la classe devait pouvoir être un lieu où on était privilégié, en fin de compte, puisque c'est quand même un lieu où on rassemble des gens et où on a la possibilité d'utiliser des contraintes. Et ces contraintes, voilà, la problématique, disons, pédagogique, pour la résumer, ce serait comment contraindre des gens à apprendre de façon naturelle, c'est-à-dire quelles conditions pédagogiques on crée pour que les gens soient dans un processus naturel d'apprentissage, un processus d'apprentissage qui est réaliste, qui est réel, qui est ce qui se passe, ou ce qui ne se passe pas, mais qui se passe quand ça se passe. Voilà. Alors, donc pour résumer tout ça, c'est donc une épistémologie du savoir linguistique que j'ai tenté de contribuer avec cette thèse. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Et il s'agissait de construire peut-être un appareil critique épistémologique pour expliquer et pour fonder des hypothèses que j'avais prouvées dans la réalité. C'est-à-dire que chaque fois, on l'avait prouvé sur nous-mêmes, puisque ce sont des démarches qu'on vivait nous-mêmes, pour pouvoir comprendre les processus et tout ce qui se passait. Donc le fait d'avoir vécu soi-même avec un groupe, avec d'autres personnes, avec d'autres groupes, et d'avoir modifié les résultats, les effets sur les élèves en classe, en conséquence de la modification des hypothèses, c'était suffisamment probant déjà pour que je sache que c'était solide, et donc il me fallait quelque chose pour l'expliquer. Et j'ai trouvé ce quelque chose avec la sémiotique. J'ai rencontré la sémiotique un peu par hasard, mais pas complètement, puisque c'est Pierre Sadoulé qui connaissait le travail, qui travaillait avec moi au secteur là, et qui m'avait fait connaître l'existence de l'IRSE. Il m'a dit « ça t'intéressera ». Donc, dès que j'ai pu, je me suis intéressée, et effectivement. Alors, je dois dire, la sémiotique m'a intéressée tout de suite parce que il y a vraiment des points communs et des convergences avec la démarche, avec ce que j'avais vécu avec la démarche. Et ça m'a donné des moyens de mieux comprendre, donc je le disais tout à l'heure, cette démarche, en m'intéressant à la logique interne des situations. Alors, une première convergence, c'est l'idée du pragmatisme, qui rejoignait ce que j'ai décrit un peu tout à l'heure avec la nécessité de faire réussir les élèves. Je ne sais pas préciser, mais bon, c'est dit sans arrêt dans ma thèse. C'est pas faire réussir quelques élèves en se disant, bon, si quelques-uns réussissent, c'est la faute des autres si les autres ne réussissent pas. Mais faire réussir tous les élèves, ça veut dire s'il y en a quelques-uns qui ne réussissent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la démarche. Donc l'idée, c'est en permanence de se dire, je n'ai pas encore tout trouvé, puisqu'il y en a encore qui ne réussissent pas dans la classe. Donc ça, c'était le parti pris du départ. qui est une contrainte intéressante pour d'exigence par rapport à la, au contenu qu'on, qu'on développe. Alors pourquoi je dis ça? Oui, parce que c'était à propos du pragmatisme. Donc l'idée de, d'avoir des effets de réalité chaque fois qu'on a un concept, vérifier que dans la réalité c'est, ça marche. Et ça, c'est un peu, c'est pas l'efficacité au sens où on peut la comprendre. Enfin, par exemple, c'est pas le pragmatisme de nos ministres qui en parlent en ce moment abondamment. C'est pas un pragmatisme qui dit on va essayer ça parce qu'on va pas essayer, on verra bien si ça marche. C'est pas ça le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est dire qu'un savoir n'a de sens que s'il a des effets de réalité. Et son sens, sa signification, c'est là qu'il la trouve. Il la trouve dans le fait qu'il construit du sens, qu'il fabrique des sens nouveaux, qu'il modifie les habitudes. Donc ça c'est le pragmatisme tel que je l'ai compris et tel que je l'ai découvert chez Peirce, et qui rejoignait l'idée donc de savoir pour au GFEN. Une des premières ruptures que j'ai connues, c'était l'idée qu'on n'apprend pas sur des choses comme ça, mais on apprend pour quelque chose. Ça me paraissait vraiment une convergence très nette. Et le concept d'interprétant aussi qui signifie l'interprétant chez Peirce, donc qui s'ajoute par rapport à la conception saussurienne du signe qui voit le signifiant et le signifié collé, les deux passent une même chose. Peirce ajoute là-dedans une troisième dimension qui modifie l'équilibre des deux, qui modifie tout le système, puisqu'il introduit la notion d'interprétant, c'est-à-dire la notion de décalage par rapport à... Il y a un objet qu'on veut représenter, mais il y a toujours un décalage dans la façon dont l'autre se représente, ou soi-même d'ailleurs, par rapport à l'objet, on se représente ce qu'on a voulu dire. Et donc ce décalage permanent, ça forme de le malentendu comme étant au cœur de la langue. Et c'est parce qu'il y a malentendu que nous parlons, c'est parce qu'il y a malentendu que nous produisons des signes en essayant d'aller toujours vers plus d'efficacité. Et c'est pour ça qu'on peut apprendre une langue. C'est pas parce qu'on veut communiquer de façon comme ça, simple. C'est justement parce qu'on ne peut pas communiquer réellement et qu'on cherche. C'est plutôt parce qu'il y a une quête d'un objet qui échappe toujours qu'on produit de la langue et qu'on produit de la pensée en même temps. Voilà, donc j'ai pris... ce qui m'a intéressé chez Peirce, c'est moins un corps constitué de connaissances. Enfin, je dis Peirce parce que pour moi, la sémiotique, je ne peux pas dire que je connais la sémiotique. Je connais Peirce, j'ai été très intéressée par le texte de Peirce. C'est là où j'ai vraiment commencé à m'en servir, c'est ce livre. Donc j'ai lu Peirce en anglais, j'ai la chance de pouvoir le lire en anglais. Mais c'est le texte de Peirce qui m'a beaucoup intéressée, parce qu'à chaque ligne, j'y trouve des convergences et j'y trouve des échos de ce que moi-même je pense, et souvent autrement que les autres. C'est-à-dire, c'est une pensée que j'avais du mal à exprimer, et je trouve chez Peirce un peu la même pensée, donc c'était fort intéressant de mettre en rencontre, de faire se rencontrer ces deux univers de pensée. Et effectivement. Ça m'a servi à faire des avancées théoriques. Bon, j'espère que mon jury en dira quelques petites choses sur ces choses-là, parce que je n'ai pas le temps de les développer tellement. Quand même, je voudrais dire que ça m'a permis... Il me semble que la sémiotique représente la possibilité de sortir d'un enfermement, d'une impuissance qui est liée, pour les profs de langue, pour les enseignants de langue, qui est liée à l'enfermement dans la référence à la linguistique. Il faut quand même remarquer une chose, c'est que la linguistique post-saussurienne, elle s'est définie comme étudiant un objet arrêté, cadré de façon géographique, c'est-à-dire arrêté dans le temps. Et Saussure, j'ai lu les écrits de Saussure, qui dit bien clairement que lui, il voit la langue comme un continu dans le temps et dans l'espace, mais qu'il faut bien découper son objet là-dedans. Et donc, pour pouvoir comprendre le langage à partir de l'étude des langues, il a fallu arrêter. Donc, il décide qu'il étudie la langue de manière synchronique, dans un instant T. Or, l'enseignant, évidemment, il peut avoir le rêve fou de donner à son élève la langue une bonne fois pour toutes, comme il faudrait qu'elle soit dès le début, et c'est d'ailleurs ce qu'on s'est forcé de faire, moi je me souviens, éviter les erreurs, éviter les fossilisations, donc ne toucher à rien. On a un peu une espèce d'impuissance liée un peu à ça. Mais en fait, dans la réalité, l'enseignant, la question qu'il se pose, c'est comment faire évoluer la langue que les élèves... c'est-à-dire comment on fait évoluer ça. Donc il faut bien un modèle qui prenne en compte le sujet. Bon, je l'ai déjà dit, mais la sémiotique, c'est vraiment une conception. Installe la langue dans une position de médiation par rapport au langage et à l'expérience et au discours, l'expérience des discours. Donc il pose la langue comme un troisième, comme une, Le troisième terme, un peu comme l'interprétin dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas et qui ne peut pas se concevoir en dehors des deux autres. Donc on a toujours cette idée, et donc j'ai pu élaborer moi un corps de concept sur le savoir linguistique qui présente la totalité de ce savoir, c'est-à-dire comment on se représente la langue de façon un peu mythique, imaginaire. C'est toujours des savoirs imaginaires, c'est toujours ça. Et à un moment donné, on rationalise pour pouvoir modifier l'imaginaire qu'on en a. Et on ne rationalise qu'à partir de situations vécues en secondéité. Et là, je voudrais peut-être insister sur ce concept de secondéité qui est central pour un pédagogue, à mon sens, puisque c'est le hic et nunc de ce qui se passe, qu'est-ce qui se produit, et qui voit l'acte de parole ou l'acte d'apprentissage ou l'acte d'écriture comme un événement linguistique, un événement, et non comme, comment dire, non comme une recette. Ce serait une recette où il y aurait quelque chose qui se produirait en plus. C'est là que la référence aux théories de la complexité m'a été fort utile aussi, puisque dans cette secondéité, il y a cette idée de, en particulier, que je voudrais souligner aussi, puisque j'ai plus trop de temps, par rapport au positionnement d'un enseignant en général, sa conception du programme. Ce concept de secondéité mis en relation en plus avec l'idée de complexité m'a permis de comprendre que, de forger le concept d'apprentissage local, c'est-à-dire qu'on travaille sur des situations locales complexes, locales, on travaille localement dans une production de discours, une production, un travail sur un texte très, très local, mais complexe, toute la complexité de la langue, parce que ce qui se passe, c'est que ce qu'on découvre là va irriguer et modifier la totalité de la représentation qu'on a de la langue. C'est-à-dire que donc ça nous dégage, en tout cas ça nous permet de poser tout à fait différemment la question des contenus et des progressions autrement que dans une progression linéaire. C'est très intéressant parce que c'est quand même un obstacle important au changement des pratiques, cette idée de la progression linéaire est trop forte. Voilà, je crois que j'ai pas trop le temps de parler de ce que ça m'a permis de découvrir sur la démarche. Je suis passé là.
Oui, enfin, on peut prolonger un petit peu.
Oui, parce que bon, il y avait une autre idée sur l'ensemble des choses, que ce soit la démarche, que ce soit le reste, c'était la gestion de l'imprévu, la logique abductive.
Comme 5 minutes, si tu veux.
5 minutes. Voilà. Donc, comment, c'est-à-dire là, gérer l'imprévu, le métier d'enseignant, c'est pas d'avoir calculé puis de vérifier que les choses se passent ainsi, c'est souvent ça, mais le problème c'est est-ce qu'on peut concevoir la formation comme une formation à la gestion de l'imprévu, et non seulement la gestion, c'est-à-dire j'accepte l'imprévu et je me débrouille avec, mais je le sollicite, puisque le but c'est pas de fabriquer des copies conformes à ce que nous sommes, mais bien d'inciter les gens à se développer dans le contact avec une langue et une norme étrangère. Voilà. Alors s'il y a une chose quand même que je voulais absolument dire, c'est à ça que je vais consacrer mes 5 minutes, c'est la question de la recherche, c'est-à-dire ma conception de la recherche qui se reflète dans ma thèse et qui a posé, je crois, les difficultés à mes lecteurs. Cette forme de travail, je pourrais peut-être, j'ai un outil qui me permet de résumer ça très, très facilement. Je l'ai trouvé dans un bouquin de Bruno Latour qui s'appelle L'espoir de Pandore pour une version réaliste de l'activité scientifique. Alors Latour, il a observé des scientifiques au travail. Et grâce au fait qu'il observe avec beaucoup d'attention le travail réel des scientifiques, il met un peu en question un certain nombre de conceptions du savoir que je mets moi aussi en question dans ma thèse en particulier. Et c'est une conception du savoir qui, à mon sens, bloque encore l'interprétation qu'on peut faire de la démarche au sein de l'éducation nouvelle. Donc, par rapport à l'éducation nouvelle, c'est important aussi. C'est l'idée d'un savoir qui se présente comme un contenu, un noyau dur auquel on essaye d'accéder. Alors les scientifiques sont à l'abri de leur subjectivité dans un bocal de verre, ils essayent d'aller, c'est un peu caricatural, hein, mais c'est un peu l'image en tout cas qu'on en a, l'idée qu'il faut être dépouillé de toute détermination sociale, etc., quand on observe son objet pour ne pas être trop subjectif, hein, donc se dépouiller tout de suite. Voilà. Et donc on a l'idée d'un objet noyau dur et puis d'un sujet absent, d'un rationnel libre, un homme libre qui l'observe de loin. Or, il montre bien que ça n'existe pas et que ça, c'est une représentation qui vient de l'effacement de tout le travail des signes dans la présentation que font les scientifiques de leur travail. Parce qu'en général, on efface tout ce qui est de l'ordre de la traduction d'un signe dans un autre, de toutes les manipulations finalement qu'on fait subir à la réalité, que de toute façon, bon, la peur nous aide à le voir, la réalité, on n'y accède qu'à travers des signes. Et la réalité, c'est quand même quelque chose qui est construit. Bachelard disait que les faits sont toujours construits, et lui il dit ils sont obtenus, les faits sont des obtenus, les données sont des obtenus. Bon. C'est-à-dire qu'il y a toujours un travail et il y a toujours des signes qui sont échangés lorsqu'on parle de la réalité. Et pas, voilà. Et alors ce noyau dur avec la société autour qu'il faut un peu écarter pour arriver à ce noyau, on l'a encore dans l'idée de la démarche, puisque la démarche construit l'auto-socio-construction du noyau dur, en fait, bien souvent dans la plupart des représentations qu'on en a. Or moi, le modèle que je propose, il se retrouve davantage dans la représentation qu'a fait Bruno Latour, qui est un sujet qui se convainc de quelque chose, puisqu'il a trouvé quelque chose, il a fait des expériences, il a trouvé, il faut qu'il arrive à convaincre les autres. Alors pour convaincre les autres, il mobilise la réalité, donc il présente ça comme une fleur, hein, avec cinq boucles. Alors une première boucle qui est la mobilisation de la réalité, l'expérience, etc., les données, et puis une deuxième boucle qui est la mobilisation des collègues, c'est-à-dire qu'il a une équipe avec qui il travaille pour que la discipline s'autonomise, et là il y a des traductions de nouveau. Alors à chaque étape il y a des traductions, à chacune de ces boucles il y a des traductions, et puis la troisième boucle c'est avec les alliés, il appelle ça les alliés, c'est-à-dire des gens qui, grâce à qui le savoir qu'on a construit ou qu'on a élaboré peut avoir une efficacité dans la société, c'est-à-dire l'argent, les politiques, etc. Et quatrième boucle, c'est la presse, le grand public, faire passer ses idées dans les idées. Et toutes ces boucles qui fonctionnent, on n'arrête pas, quand on réfléchit à l'activité, dans la démarche, c'est exactement la même chose qui se passe, dans la science, c'est exactement bien la même chose qui se passe, et il se trouve la cinquième boucle, qu'il ne faut pas oublier bien sûr, qui donne leur sens à toutes les autres, qui les relie, c'est la boucle des liens et des nœuds. Et c'est la boucle du symbole, hein, du savoir. Alors le savoir, il est là, et c'est pas un noyau dur, il est là, quoi. Il est dans l'intimité du sujet chercheur, et il est là pour le chercheur, et il est là aussi pour n'importe quel homme, n'importe quelle personne qui élabore son savoir dans cette démarche-là aussi. Et là, on rejoint une de mes problématiques les plus peut-être inquiétantes, ou les plus qui provoquent peut-être des inquiétudes, c'est l'idée que tout homme est chercheur. Alors évidemment, bon, après, selon la façon dont les boucles se font, plus ou moins, bien sûr, selon les chances qu'on nous donne d'en être conscient, surtout. Et puis, bon, il faut distinguer le chercheur professionnel donc c'est la profession, mais c'est comme les créateurs, on est tous créateurs. Il y a des gens qui choisissent d'être des artistes et d'autres qui sont créateurs dans leur vie, sans se revendiquer artistes. Et là, cette idée-là, c'est l'homme signe. Shaper, ça s'appelle l'homme signe, et c'est aussi le symbole qui croit en permanence. C'est-à-dire que les symboles sont faits pour croître et pour se risquer dans la société. Et je pense que ça décrit assez bien un modèle du savoir émancipateur. Merci.
Merci pour cette présentation, dont on aura vu qu'elle est exemplaire dans le sens d'une appropriation parfaite et d'une animation malgré la disposition topographique qui est irrépressible. Merci beaucoup. Donc, je donne la parole à Joëlle Retourné, en tant que directrice de la pays.
Voilà. Suis-je autorisée à céder au charme du vouvoiement? Bon, c'est un très beau travail, de mon point de vue, qui est intense, qui est original. Très maîtrisé dans l'utilisation des concepts par science, c'est pas toujours le cas, même à l'issue d'une thèse, et donc vous montrez en tout cas constamment l'efficacité dans l'analyse des phénomènes extrêmement variés dont vous étudiez. Tout au long donc de ces 525 pages de thèse proprement dites, c'est-à-dire à l'exclusion de la bibliographie, de l'index rerum, des annexes et d'une table des matières qui est extrêmement détaillée, vous faites donc une critique étayée d'un certain nombre d'idées plus ou moins reçues en matière de pédagogie des langues vivantes, des idées dont vous dites, et je pense que vous avez raison, qu'elles relèvent en fait généralement de ce qu'on pourrait appeler l'objectivisme abstrait. Je me réjouis de dire aussi que vous n'êtes pas animé par un esprit de critique stérile. Je crois que c'est extrêmement important. Tout au contraire, vous mettez votre esprit critique au service donc des langues du monde et même au service de l'anglais que vous avez enseigné pendant 25 ans. Et ce qui est intéressant dans votre attitude, c'est que vous en parlez non pas parce que c'est la langue universelle d'aujourd'hui, donc incontournable à ce titre, mais bien parce que c'est une langue comme les autres aussi, hein, et une langue qui mérite qu'on la partage dans le plaisir de la parler, et qui ne soit pas réduite à son statut sociolinguistique actuel de langue internationale, qui désespère les Anglais d'origine. Et il me paraît bon, en tout cas évident que les enjeux de votre travail sont énormes, hein, tant au point de vue des individus que des groupes, de nations, au plan humain en général. Alors, je viens de dire que votre thèse était originale. Oui, cela, évidemment, comporte certainement des risques, mais je crois que vous les avez quand même beaucoup mesurés. Et notamment, cette thèse est originale dans sa conception. Votre plan, à mon avis, reflète la complexité de votre démonstration. Parce que vous êtes profondément convaincu, c'est en ce sens aussi que vous êtes persienne, que toute recherche doit être faillibiliste. Il vous a été impossible de répondre aux exigences habituelles, hein, d'exposer des hypothèses dès l'introduction, hein, comme une liste. Donc, on fait volontiers, hein, aussi par ailleurs. Hein. Vous en posez une quand même, hein, dès la première page. Donc, on n'est pas complètement privé de toute hypothèse dès le départ de la lecture. Mais on constate au fil de la lecture que d'autres hypothèses émergent, surgissent donc en des endroits divers, hein, parfois très éloignés les uns des autres. Alors, je dirais que votre travail, votre ouvrage, hein, est une métaphore du mouvement de la pensée scientifique selon Peirce, hein, qui part effectivement de l'abduction, donc de la formation d'hypothèses, se poursuit donc en déduction et s'achève momentanément en une induction jusqu'à l'émergence d'une nouvelle abduction et le cycle reprend. Pour que la pensée soit dynamique, hein, elle doit être autorisée à repartir sur de nouvelles pistes. Utilisait le terme tout à l'heure, une fois acquise donc une forme de certitude chez le chercheur. D'où justement cette série d'abductions qui vont arriver à un moment ou à un autre, une fois que vous avez un petit peu épuisé finalement ce que le travail sur les concepts vous permettait d'en dire et surtout d'en tirer comme conséquence. Je pense que c'est la complexité, la richesse de votre sujet, et puis sans doute votre inscription aussi, hein, dans la démarche, qui vous ont obligé donc à choisir une procédure qui permettait justement cette progression réelle de la pensée. Vous avez refusé le figement, la réification a priori d'hypothèses qui contiendraient donc leurs résultats. Et vous avez fait le pari de l'aventure pragmaticiste en laboratoire qui pose donc en guise de maxime, vous l'avez dit d'une autre manière, mais vous l'avez dit tout à l'heure, que le sens de nos concepts est à chercher dans leurs conséquences futures. Il faut beaucoup de travail et de l'imagination pour identifier ces conséquences. Et cela fait partie de votre compétence scientifique et font subsidiairement de votre compétence de persienne, mais bon, c'est peut-être pas le plus intéressant. Alors, ce plan, bien, il est, dans son étrangeté peut-être, hein, il était très, tout à fait équilibré autour d'une grosse deuxième partie, hein, donc 120 pages, 210 pages, 120 pages, je ne pense pas que ce soit fait exprès, mais bon, ça tombe comme ça. Et donc, vous définissez votre méthode d'enquête dans cette première partie, qui est la fameuse démarche auto-socio-constructive, définie comme une pédagogie de l'émancipation, qui donc suit la progression logique dont je viens de faire état. Ce que vous y dites, c'est que l'apprentissage ne doit plus être seulement essentiellement déductif, mais que l'étape de déduction, d'abord, doit suivre l'émergence d'hypothèses et se poursuivre inductivement. La deuxième partie applique cette démarche, donc plus précisément, aux langues étrangères. Pour avoir été moi-même mise en situation d'apprenante, hein, dans les conditions de la démarche, donc je peux attester de la nécessité au point de départ d'un exposé clair, donc des consignes. Donc quelque chose qui est effectivement une contrainte, mais aussi qui permet de se lancer dans quelque chose, hein, parce que ceux qui sont intéressés à l'apprentissage des langues étrangères ont sans doute vécu l'effroi de se demander par où commencer, hein, ou entendu des gens se poser ces questions-là. Voilà. Donc on a des consignes. Hein, et donc, avant toute expérience de découverte au sein de la démarche. Ça vous fait oser une étrange formulation, d'ailleurs, qui est d'enseigner le don des langues. Ma première thèse portait sur l'aptitude à apprendre les langues étrangères, et bon, c'est intéressant pour moi que j'ai lu la vôtre avant. Mais bon, le don des langues, généralement, il est considéré comme quelque chose d'inné. Ce n'était pas ce que je disais déjà à l'époque. Hein. J'avais lu Morris. Mais enfin, quand même, j'étais moins ferme dans mes conclusions sur l'aptitude à apprendre les langues que ce que vous avez à dire sur l'enseignement du don des langues qui vous fait prôner une pédagogie de l'égalité des intelligences. Vous faites surgir assez rapidement ce qui constitue une autre originalité de votre travail, hein, et ce que vous appelez une triade, qui est sans doute plus justement une trichotomie, hein, la triade épistémique de la conscientisation de l'approche d'une langue nouvelle. Et c'est une triade dont tout le monde va reconnaître ici les concepts, mais que vous avez redéfini de manière extrêmement intéressante, et donc qui est celle de l'archétype, du stéréotype et du prototype, et l'ordre n'est pas hasardeux, c'est un ordre qui est fonction effectivement des catégories de phénomènes selon Peirce. Vous avez tout à l'heure nommé le concept de secondarité, peut-être même celui de tertiarité, je crois l'avoir entendu. Bon, ben voilà, il y a la priméité aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est cet espace fait de qualité, ça c'est ce qu'on appelle la priméité, qualité au possible. La secondarité, c'est l'espace de l'existant, et puis la tertiarité, c'est l'espace de l'avoir. C'est pas vous que je dis ça, bien sûr, c'est tout le public dont je vous dis qu'il n'était pas familier de notre jargon. La troisième partie est un essai de modélisation en vue d'une épistémologie du prototype, fixé sur cette dernière dimension. Et c'est là qu'est, à mon avis, pleinement exploité le paradoxe formidable de cette thèse, c'est que c'est cette même dimension de tiercéité qui peut être utilisée de manière catastrophique en pédagogie des langues lorsqu'elle est exclusive, et que vous réinvestissez pour exploiter sa capacité d'organisation de la critique collective. Et le terme de collectif est extrêmement important, surtout quand on le met en rapport avec la notion de sujet ou d'individu, de personne. Or, nous avons besoin justement de cette critique collective, hein, pour apprendre. Mais voilà, la différence entre ces deux attitudes pédagogiques, c'est que la pédagogie traditionnelle ne connaît que la langue, alors que la démarche fait une large place au discours et au langage, hein, le langage singulier, hein, le langage des personnes assertées sur fond de toile collectif. Et le terme d'asserté, évidemment, est pour nous fondamental, puisque c'est lui qui vient nous dire la responsabilité du sujet lorsqu'il parle. C'est la place donc faite à la création, possible cette complexité phénoménologique, hein, indispensable au succès de cet apprentissage. Et pour avoir assisté à l'heure technique de la démarche, hein, je sais à quel point... Alors, pour revenir à vos hypothèses, hein, qui sont comme ça, donc, qui arrivent au fil des pages, hein, je pense qu'on est en droit de penser qu'elles reflètent au moins partiellement la marque de votre engagement militant au sein du GFEN, et bon, on peut imaginer que ce soit quelque chose sur lequel la discussion s'instaure. Vous êtes parti d'une conception qui est largement répandue de la langue, qui voit dans la langue un système quasi exclusivement symbolique. Voilà, la langue, c'est... de symboles. On dit ça depuis Saussure et même avant, puisque Saussure se le disait aussi, et il était de 20 ans l'aîné de Saussure. Et vous décidez donc d'interroger cette certitude. Hein. Donc la langue, ce serait simplement des symboles, voilà. Pour rendre manifeste ce qui n'est pas visible. Et on va trouver un autre paradoxe là aussi, c'est que dans ce qui n'est pas visible, en tout cas dans la pédagogie, il y a justement la seule chose visible dans tous ces signes qu'on échange, qui est la dimension du discours. Bon, je reviens là-dessus. Or, ces dimensions qui ne sont pas assez visibles, et que donc la pédagogie sans doute n'exploite pas assez, enfin, qui pourrait expliquer l'échec de l'enseignement des langues étrangères en France, hein, ce sont des signes d'un autre genre que les symboles, c'est-à-dire les icônes et les indices. Et surtout, c'est une multiplicité de sémioses différentes, hein, vont donner lieu, bon, dans la valise du sémioticien à 10 classes de signes, c'est déjà 10 types de sémioses différentes, hein, au lieu d'avoir un élève, hein, qui apprend des symboles, hein, et apparemment à peu près toujours de la même manière, bien là on a 10 chemins différents pour accéder finalement à l'accès aux symboles. Mais bon, si je reviens à votre hypothèse de départ, donc qui apparaît vraiment dès la première page, hein, elle est que donc l'essentiel, hein, en matière de langue et d'apprentissage, elle est justement dans ces parties cachées, trop rarement présentes dans le travail qui est préconisé au sein de l'institution scolaire. Alors, qu'est-ce qui est caché? Ce qui est caché, c'est le langage. Et je suis heureuse que vous m'ayez suivi dans ma conception du langage, donc définie comme texture qualitative, hein, l'espace imaginaire des formes possibles, hein, les formes possibles de la langue, hein, tant sur le plan de la phonologie que de la grammaire, que du lexique, que du sémantisme de la langue, et propre à chaque langue. Quel que soit aussi le statut sociolinguistique de cette dernière, pour les sujets apprenants, autrement dit, que ce soit une langue vernaculaire, que ce soit une langue référentière, une langue mythique, là, bon, je n'ai pas beaucoup d'étudiants de troisième année, mais si, j'en vois quand même deux. Donc, c'est la tétraglossie de Gobard, hein, qui parle des différentes fonctions du langage, que ce soit, bon, on l'appelle langue étrangère, langue seconde, chaque fois, il y a des choses qui se passent au niveau donc, de la... à la fois de la personne, mais aussi de la réception sociolinguistique de la langue, du statut, de la fonction de la langue pour tel sujet. Mais le paradoxe n'est pas là. Ce n'est pas dans l'oubli, finalement, de cette dimension de langage, parce que tout compte fait, quasiment tous les linguistes aussi, hein, font l'impasse sur cette dimension-là de langage. Le paradoxe, c'est que ce qui est caché, c'est la seule chose visible dans ce qu'on échange du point de vue de la langue, c'est-à-dire le discours. Alors, il est nommé, bien sûr, depuis les théories de l'énonciation. Hein, ça fait 30 ans, hein, même 35, hein, que Benveniste, Cuglioli, pour ce qui est des anglicistes, hein, Benveniste pour la linguistique générale, ont théorisé l'énonciation. Mais ça reste quelque chose d'extrêmement abstrait. Hein. Et donc, ça ne... alors, pourquoi est-ce que c'est la seule chose visible? Parce que la langue, personne ne l'a jamais ni vue ni entendue. Hein. On n'a jamais entendu que des signes qui relèvent du discours, hein, des signes qui relèvent de la parole. Hein. Et par conséquent, la langue, c'est un objet complètement abstrait qui se construit, justement, hein, et qui ne peut pas être donné directement, jamais. Or, c'est quand même extraordinaire de penser que, alors même que c'est le discours qui est une dimension tellement importante, finalement, pour accéder aux langues étrangères, qui est la seule chose visible, elle devient une chose invisible dans l'enseignement. Hein. C'est le grand paradoxe de la situation. Voilà. Alors, qu'est-ce qui... Je vais vous mettre à faire trop long. Hein. Qu'est-ce qui fait problème là-dedans? Ce qui fait problème, hein, c'est que le réel dans sa richesse, hein, pas simplement le réel des généraux, hein, mais le réel des possibles, des qualités et le réel aussi de l'existant, hein, ce réel, il faut qu'il soit pleinement habilité ou réhabilité dans l'apprentissage et donc dans l'enseignement des langues. Voilà. Alors vous avez la langue donc comme outil de médiation symbolique, mais pour être, pour exister, hein, pour être dans l'existant, il faut qu'elle soit instanciée en discours. Hein. Et donc ce discours, il faut qu'il soit tenu par de vrais sujets qui parlent vraiment, qui parlent vrai. Et par conséquent, qui assument effectivement la responsabilité de leurs propos. Alors, la façon dont vous avez exploité la sémiotique persienne, c'est effectivement, pas tellement comme théorie des signes, parce qu'il y a longtemps qu'on ne fait plus ça, hein, même à Perpignan. Hein, longtemps on dit c'est une théorie des signes, maintenant, ça fait longtemps qu'on dit c'est une théorie des sémioses. Hein. Et donc, vous avez exploité, effectivement, la complexité donc, des sémioses, qui peut se voir soit à trois termes, hein, un signe qui a un objet pour un interprétant, mais qui peut aussi se voir plus complexe, et donc avec six termes, parce que, finalement, il y a deux objets. Il y a un objet réel qui est hors du signe, et puis il y a un objet immédiat qui est dans le signe, et puis, vous avez le signe lui-même, et puis trois types d'interprétants. Hein. L'interprétant immédiat qui est dans le signe, le dynamique qui est celui qu'on peut observer, hein, la dimension de l'observable, elle est là, et puis vous avez l'interprétant final de l'habitude dont vous parliez tout à l'heure. Alors ce qui est très important, c'est que en utilisant les deux objets, vous permettez de dire ce qui... Une des choses qui ne vont pas dans l'enseignement des langues. Dans l'enseignement des langues, on n'enseigne pas à reconnaître que derrière les mots qu'on lit dans les textes que le prof donne, distribue ou fait écrire, etc., il y a des objets réels. Et qu'il y a des sujets réels qui sont... dont c'est le contexte. Et la distinction de l'objet immédiat dans le signe est extrêmement intéressante parce que c'est la dimension, finalement, qu'on retrouve dans la pédagogie, en particulier dans la traduction, qui laisse penser aux élèves qu'au fond, la langue... Eh bien, on va la trouver en ouvrant un dictionnaire, puisque chaque mot va être traduit dans un autre qui est plus familier pour nous, parce que généralement, c'est dans notre langue propre, finalement, que on le trouve, ce mot qui fait écran. Et donc, ça vous donne une langue qui est censée être faite de symboles, mais qui, bon, finalement, va se satisfaire au niveau de l'apprentissage. Prenez finalement des mots dont j'ai vu la traduction ou on m'a appris leur traduction, et par conséquent, je vais avoir un travail d'imitation comme ça, qui est juste de la reconnaissance. Le travail d'imitation que vous faites, vous, est d'un tout autre genre, puisqu'il s'agit d'une imitation modélisante qui va permettre donc d'aboutir à quelque chose qui sera un véritable partage dans la langue et dans toute sa complexité, et qui va permettre de faire intervenir la dimension existentielle. L'imitation modélisante, elle se fait nécessairement collectivement, et elle s'appuie donc sur un travail à la fois individuel, mais qui, d'abord individuel, dans la consigne, mais qui va devoir tout de suite s'échanger avec ceux qui auront travaillé isolément pour commencer dans un premier temps, et qui va donc devoir se partager, et ça va se partager dans un discours qui, lui, va être pleinement assumé par la personne donc qui parle de la façon dont elle a abouti à tel résultat lorsqu'elle a mis en rapport des langues, même complètement étrangères. C'est ce qui s'est passé donc dans la dernière démarche à laquelle j'ai participé, hein, où on s'est retrouvé avec une langue de Bolivie dont j'ai déjà oublié le nom, Moreno. Voilà, hein. Et donc à la fin, alors je l'ai écrit, hein, à la fin de la séance, eh bien nous avons chanté en Moreno. Bien sûr, nous ne comprenions pas ce que nous disions, mais quand même, cette langue nous est quand même passée par notre corps, hein, et on a émis des choses. Bon. Donc, ça, c'est effectivement une des, à mon avis, une des intérêts, hein, pratiques de cette démarche que vous nous permettez, c'est le fait que, au fond, vous créez tout de suite du plaisir. Il y a du plaisir parce que, au lieu d'être pendant des heures et des heures et des heures face à des listes de vocabulaire, face à des exercices de répétition, etc., vous donnez le sentiment qu'au fond, tout de suite, on peut s'approprier un petit quelque chose. Et bien sûr, tout ça, ça reste à retravailler encore et à développer, et ça peut pas. Je ne parlais pas le Moreno à l'issue de l'heure en question, mais j'ai fait quelque chose avec, et ça donne évidemment aussi le goût d'une poursuite. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la gourmandise. Hein. Je crois que ce qui fait sans doute défaut dans l'enseignement, c'est de susciter les gourmandises. Alors bon, je crois que je suis amené à couper très largement dans tout ce que j'aurais voulu dire sur cette thèse, sur les avancées théoriques. Hein, je crois que, en ce qui me concerne moi personnellement, c'est sur les notions d'archétype, de stéréotype et de prototype, hein, que ça m'a le plus intéressé. Hein. Vous montrez des paradoxes. Bon, je vais retenir simplement une des petites choses qui m'ont beaucoup frappée. Je n'avais jamais songé à quel point la langue maternelle peut faire écran dans l'apprentissage. Alors, bien sûr, on sait qu'elle fait écran, mais à ce point-là, je n'avais pas soupçonné. Et je le trouve dans la thèse. Vous racontez cette situation dans laquelle un instituteur ou une institutrice, je ne me souviens plus, parle aux enfants des langues étrangères, et donc l'espagnol, les Italiens parlent l'italien, et les Espagnols parlent l'espagnol, etc. Et puis vous dites, l'institutrice dit aux enfants que les Français parlent le français. Et alors là, il y a une levée de bouclier qui est tout à fait intéressante d'un ou plusieurs enfants qui dit, mais non, nous, c'est pas possible, hein, on parle pas français, nous, on parle. Ça, c'est fantastique. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire sur lequel il faut vraiment méditer. C'est ceux qui parlent une langue, ce sont les autres. Hein. Et donc, c'est toujours. C'était un des sous-titres que je pouvais imaginer pour votre thèse, hein, qui est donc le sous-titre, c'est pédagogie de l'égalité des intelligences, et l'appeler pédagogie de l'étrangeté. Hein, la pensée en trois dimensions. Hein. Alors bon, je voudrais me laisser le temps d'une petite question. Alors, je clôture en vous disant que, personnellement, hein, bon, l'idée m'est venue sur Internet il y a quelques jours. J'ai reçu donc un message de la présidente de l'Association des linguistes anglicistes de l'enseignement supérieur qui transmettait un message d'une maître de conférence en IUFM à Rennes. Et qui donc nous apprend qu'une certaine rumeur qui courait donc depuis le début d'année dans les UFM est devenue maintenant un projet.
Oui, ben ça me permettra d'aborder un peu un aspect que j'avais dû laisser de côté là parce que j'avais pas le temps. C'est la question d'être au service des langues du monde, puisqu'il y a un des développements du travail théorique que j'ai fait avec la sémiotique, ça a été de relancer de nouvelles hypothèses par rapport à autre chose que le simple enseignement de l'anglais, mais le rapport aux langues en général, et en particulier la question des... Bon, j'ai rencontré ici, à ce moment-là, la question des langues régionales et la question des langues d'immigration et toute la question de la violence sociale qui passe par... qui, à mon avis, j'ai réussi à faire à ce moment-là, j'ai construit une idée autour de l'importance du rapport aux langues dans la violence sociale que nous subissons énormément à l'heure actuelle. Et donc, peut-être quelque chose à chercher de ce côté-là pour sortir de cette impasse sociale du moment. Et en particulier, donc, on a monté des projets. On a d'abord inventé ici, à Perpignan, une nouvelle démarche qui est dans la thèse, qui est celle du Petit Prince, où justement, on aborde la question de la tierce d'une autre manière, c'est-à-dire on traduit les langues les unes dans les autres pour arriver à aborder des langues absolument fermées au départ. Et ça a été une découverte extraordinaire. Et à partir de là, on a pu théoriser et mettre en place une espèce d'institution qui est la rencontre de classe, une rencontre de classe autour de quelque chose qui est un nouveau concept, qui est la fondation d'une science qu'on a appelée anthroposophie. Je suis fière d'annoncer la naissance de ce bébé qui a été reporté pour cause de grève, mais qui va se tenir. Et c'est donc les enfants de classe... C'est une rencontre de classe, donc d'enfants de la filière catalan, bilingue, d'enfants de primo-arrivants, donc qui apportent la richesse que présente leur langue dans ce cadre-là. Et on leur fait découvrir, et puis d'autres classes, de ZEP en particulier, donc d'enfants bilingues pas forcément reconnus, en situation de diglossie, on dit, quelquefois. Et nous, on le fait travailler sur des langues, et cette fois-ci, on va travailler justement sur les langues mocagno, enfin des langues amérindiennes ou autres. Du bout du monde, des langues très menacées de disparition. Bon, ça c'est juste l'aboutissement actuel de la chose. C'est pour dire que donc on a rebondi sur des projets qui prennent une autre dimension, et en particulier cette question de l'enseignement des langues à l'école primaire. Ça nous a amené, le fait de travailler avec les classes dans ce cadre-là, nous a amené à rencontrer des inspecteurs, et on a fait déjà des propositions. J'ai déjà proposé des choses dans ce sens-là. Je ne vois pas, personnellement, pourquoi les langues seraient le domaine réservé de spécialistes, alors que toutes les autres spécialités peuvent être enseignées par les enseignants du primaire. C'est-à-dire les enseignants du primaire sont des enseignants généralistes, et pourquoi est-ce que le savoir des langues ne pourrait pas devenir un savoir généraliste comme les autres ? Il me semble que le travail que j'ai fait montre qu'on peut repenser l'enseignement des langues de cette façon-là, comme un des éléments de la culture générale dans laquelle on forme les enfants. Et je pense d'ailleurs que ce que je n'ai pas pu développer tout à l'heure, c'est cette dimension, ce fait d'inscrire en fin de compte l'enseignement des langues comme spécialisation d'une formation polyglotte, c'est-à-dire formée à la polyglossie, formée au contact, au travail dans les langues, dans la multiplicité des langues. Et ça, c'est certainement plus les enseignants du primaire qui peuvent être formés à le faire que les enseignants spécialistes du secondaire. Donc je ne sais pas si ça... Oui, ça répond à peu près à la question, c'est-à-dire la proposition que je ferais, c'est bien que la solution ne consiste certainement pas à comme ça se fait beaucoup à l'heure actuelle, à importer en primaire ce qu'on fait déjà avec des résultats si catastrophiques dans le secondaire, c'est-à-dire recopier, commencer plutôt ce qui écœure les gens assez rapidement et qui les éloigne de plus en plus du savoir. C'est peut-être pas la meilleure des solutions. Par contre, se servir des premières années pour développer les savoirs polyglottes, développer cette formation-là, ça oui, et ça on pourrait très bien former les enseignants du primaire dans le cadre de leur formation de base.
Puisqu'ils sont tous capables.
Surtout s'ils se mettent au travail dans certaines conditions.
Voilà. La réponse est terminée.
Oui.
Merci beaucoup. Donc, Madame Christiane Moreau va prendre la parole.
Voilà, alors je tiens tout d'abord à remercier Madame Joëlle Rétoré et puis vous-même de m'avoir conviée à cette soutenance, même si alors j'ai vraiment l'impression d'être une touriste parce que je ne suis pas une spécialiste, donc j'allais dire de la didactique, de la pédagogie de l'apprentissage des langues étrangères, et encore moins, je dirais, du GFEL, donc dont vous êtes issu, et à partir de. Duquel donc vous formulez votre première démarche, donc qui va vous conduire à la démarche d'enquête de votre thèse. Alors c'est vrai que moi j'aurais des questions et j'en resterai peut-être à un niveau un peu superficiel, parce que bien que étant un peu spécialiste de Peirce, je ne me suis pas réellement retrouvée dans la façon dont vous traitez Peirce, non pas parce que ce n'est pas intéressant, je trouve qu'il est utilisé magistralement, mais moi je l'ai transposé d'une manière vraiment très spécifique pour l'utiliser et comprendre comment le bébé se développait. Alors, donc en fait, votre thèse, à bien des égards, sa lecture a été pour moi un saut dans l'étrange, dans l'inconnu, et donc ce que je vais dire donc reflète un tout petit peu ce saut dans l'étrange. Et une des façons que j'ai pu avoir d'entrer dans votre thèse, c'est de me situer depuis ma posture de psychologue du développement et d'essayer de comprendre quelle théorisation donc de l'enseignement-apprentissage il y avait derrière donc votre conception. Et là-dessus, je vous montrerai plus tard des éclaircissements, parce que je ne suis pas encore tout à fait au clair. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur ce que vous énoncez au départ de votre démarche. On voit le terme de démarche de votre enquête, plutôt de l'enquête qui est l'objet de votre thèse. Vous constatez donc en fait qu'il y a échec de l'apprentissage des langues étrangères, et que cet échec donc se situerait dans un conflit entre différentes logiques institutionnelles, une logique qui serait d'un côté plus orientée vers une logique plus créatrice, plus orientée vers la création, et une logique plus conservatrice qui serait celle plutôt de la pédagogie traditionnelle, donc de l'école. Alors, dans l'optique d'un dépassement de ce conflit, vous convoquez donc votre expérience d'enseignante, qui s'inscrit donc à ce que j'ai cru comprendre donc dans le projet philosophique du GFEN, pour tenter de valider un autre regard donc sur cet enseignement des langues étrangères. Alors, vous faites une présentation. Alors, je reviendrai peut-être un peu là-dessus tout à l'heure. J'ai eu un petit peu de difficulté parfois à vous lire, mais je trouve très intéressant la démarche. On n'est pas dans un écrit canonique classique de thèse, ce qui fait que comme j'avais très peu de temps, je lisais en pointillé, j'étais toujours obligée de revenir au début de la thèse. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se construit par cercles successifs, et où il y a toujours un ajout, finalement, une précision. Et si on oublie la précision, on perd le fil. Et donc, j'ai perdu constamment le fil, puisque c'était en plus pas dans mon propos habituel, là où je suis experte. Hein. Donc, j'ai eu vraiment du souci à lire votre thèse, mais en même temps, je trouve très, très intéressant, donc je voulais dire la démarche, d'essayer de reproduire cette démarche d'enquête pas à pas, hein, d'une certaine façon, avec une minutie et donc une précision assez étonnante. Alors, ce que vous faites donc pour essayer de valider cet autre regard sur l'enseignement des langues étrangères que vous essayez donc de formuler, vous faites état tout d'abord d'une démarche qui aurait été mise en place, enfin je ne le conteste pas, qui a été mise en place au sein du GFEN, et une de mes premières surprises a été de voir le D majuscule dans démarche. Alors, après, j'ai compris, bien sûr, j'ai réagi un peu iconiquement, évidemment. Donc, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu contrariée, parce que c'était comme si, dès le départ, vous assertiez quand même que cette démarche était la bonne, ou en tout cas, le fait de mettre ce D majuscule à démarche, hein, sans autre considération, donc par ailleurs, tout au début, j'ai été très étonnée. Alors, ceci dit, par rapport à cette démarche, donc, dans cette question, et que vous avez donc, qui est une démarche au départ de formation, hein, si je ne me trompe pas, parce que j'essaie de suivre. Donc, en fait, c'est une démarche d'auto-socio-construction des savoirs, à partir de laquelle vous allez élaborer d'autres démarches. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment par cercle. Hein, c'est ça qui est parfois difficile à comprendre. Parfois, je me suis dit, est-ce qu'il y a 3 démarches? Est-ce qu'il y a 4 démarches? Je regardais vite le texte. Et voilà. Donc, en fait, à partir de cette démarche originelle, on pourrait dire, qui s'est construite dans le cercle des militants, parce que vous avez aussi un accent fortement militant, hein, au début, qui, pour une part, alors, a sonné comme étrange, hein, en ce qui me concerne, et qui m'empêchait d'une certaine façon d'entrer dans le texte, hein, comme s'il y avait une sorte de verrouillage. Ça, je voulais le dire aussi, tout en... Attention, ce sont des critiques tout à fait petites, hein, parce que je trouve très très intéressant la démarche que... Enfin, la démarche... Sans ma vie. Votre démarche. Donc, en fait, par cercle concentrique, donc, vous nous présentez, à partir de cette première démarche donc, qui a été fondée dans des ateliers de formation, j'imagine, au GFN, vous nous présentez 3 situations d'apprentissage. Hein, j'aime bien bon, le terme d'apprentissage, je ne parlais pas d'enseignement-apprentissage, je parlais d'apprentissage, que vous avez initié. Donc, dans votre texte, apparaît le terme d'inventer, hein, très souvent. Donc, vous êtes aussi... enfin, tout le monde est en invention. Vous êtes persienne, quoi, jusqu'au bout des ongles. Donc, en fait, que vous avez inventé et qui, toutes ces 3 démarches, s'inscrivent donc dans celle d'auto-socio-construction des savoirs, donc, à laquelle vous avez été formée. Alors, une chose particulière aussi, là où l'anglais change également, c'est qu'au lieu de vous demander ce qui ne marche pas dans l'enseignement des langues étrangères, puisque, apparemment... Bon, vous le dites, et puis ensuite, vous partez tout à fait sur autre chose. Vous allez voir ce qui va bien marcher, hein, apparemment. Donc, vous allez parler de situations. Hein, vous dites démarche. Hein, c'est le terme de démarche que vous employez. Moi, je mets de situation pour me retrouver un petit peu. Mais vous partez de situations, donc, dites-vous, qui ont réussi. Et là, évidemment, je ne peux pas redire ce qu'a dit mieux que moi... J'allais dire Joël Rétoré. Je me trompe entre les deux Joël. Donc là, on est vraiment dans la démarche pragmaticiste, mais on est dans la démarche d'enquête qui essaie de comprendre ce qui a fonctionné. Donc voilà. Alors, une première démarche qui était aussi très étonnante. Donc j'ai passé d'étonnement en étonnement. Donc je suis un petit peu persienne, mais vraiment j'étais très étonnée. Donc la première situation a fait à l'exploration du concept d'accent, et ça je trouvais évidemment très 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 intéressant. Et donc exploration de ce concept d'accent dans son aspect matériel, on pourrait dire, et qui pour que cette exploration ait lieu, donc touche aux ressources, a fait appel. Aux ressources émotionnelles donc du sujet apprenant, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors première démarche que vous évoquez, et ensuite deuxième démarche, démarche multilingue, hein, si j'arrive à relire mon texte qui est très très mal écrit, où vous comparez donc la classe de langue à un système dynamique d'un haut niveau de complexité. Et là, vous convoquez bien d'autres théories que celles de Peirce. Donc, évidemment, il y a énormément de théories qui sont convoquées, mais qui sont convoquées en pointillé. Alors, c'est là où moi, j'ai eu la difficulté quand même, et je le dis encore, que vous convoquez en pointillé au fil de votre démarche locale. Donc, on n'a pas... Par exemple, une revue de la littérature qui poserait, par exemple, votre conception de l'apprentissage, certainement l'apprentissage, qui serait quand même assez soulageante pour quelqu'un qui est en dehors du cercle perpignanais, et enfin, qui est même dans la campagne vaudoise, pour ne pas le dire. Et donc, c'est quand même, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Donc, ça me faisait penser à certains égards à Piaget, que je me suis acharnée à faire lire à mes étudiants dans la première partie de ma vie scientifique, et étudiants qui étaient complètement embêtés de lire Piaget, parce que lui rapportait toujours un élément, il croyait toujours lire la même chose, mais il y avait toujours un élément qui était nouveau, qui était apporté et qu'il ne fallait pas sauter, sauf à ne plus comprendre ce que l'on était en train de lire. Alors, démarche donc multilingue, donc comme j'ai dit, système dynamique, donc envisager la classe de langue comme un système dynamique d'un haut niveau de complexité. Donc, où la langue peut s'y inventer. Alors là, j'ai eu aussi un petit peu de mal à comprendre comment on pouvait inventer, mais quoique je le comprends finalement dans votre explication, puisque vous reportez quand même, vous centrez, vous focalisez le sujet apprenant, hein, et je veux dire au niveau de tout son fonctionnement psychique, hein, pas seulement raisonnemental, intellectuel, mais vraiment au niveau de sa corporéité, on pourrait dire. Néanmoins, j'ai quand même eu un tout petit peu de mal avec le terme d'invention parce que, ou de recréation, je ne sais pas si vous employez le terme de création ou recréation parfois, parce qu'on est quand même face à un produit socio-historique, la langue, et on se l'approprie. Alors j'ai remarqué quand même qu'il y avait un flottement parce que soit on l'invente, soit on se l'approprie. Si on se l'approprie, c'est qu'il est vraiment socio-historique. Et là, peut-être ai-je eu des difficultés à vous suivre parce que d'une certaine façon, on a l'impression qu'on est à la quête d'une nature chez l'apprenant qui serait au-dessous du vernis social qui lui permettrait d'entrer en matière sur l'objet langue. Hein. Alors, donc, dans cette deuxième démarche que vous étudiez, ou deuxième situation, donc on réinvente la langue, disons, collectivement, on apprend que, effectivement, cette langue qui s'y invente n'est pas d'emblée conforme à une norme générale et reconnue. Donc, on observe, c'est ce que vous dites, une dispersion, une forme de dispersion généralisée des désirs, des attentions, voire parfois une stagnation des niveaux. Voilà, mais c'est une nécessité dans un premier temps, apparemment, dites-vous. Alors, troisième situation, troisième démarche, donc, qui est Pierre de Rosette, donc, qui introduit à une démarche de comparaison des langues. Pour tenter d'entrer dans la langue étrangère, dans une langue qui est considérée comme plus éloignée, en dehors de nos systèmes de repères habituels. Donc ici, il y a un travail sur la multiplicité des langues, et donc Joël Rétoré en a parlé tout à l'heure. Donc à partir de ces trois types de situations qui ont réussi, et où apparemment, d'après les éléments de transcription qui sont versés donc au texte, on s'aperçoit que les élèves, effectivement, enfin les apprenants, trouvent du plaisir, vraiment jouent dans ces situations, dans cette activité d'invention et de recréation. Donc au travers de ces trois situations, vous essayez d'aller plus loin et vous les passez au crible de la sémiotique persienne, pour, au final, tenter d'élaborer donc un appareil critique, hein, comme vous dites, des situations pédagogiques, qui aboutit dans une dernière partie à fonder la pédagogie que vous appelez de vos voeux, donc sur le paradigme de l'étrangeté, hein, si j'ai bien compris. Donc, en effet, donc dans cette démarche, alors la vôtre, hein, pour mettre en scène donc ce que vous appelez de vos voeux donc comme démarche de pédagogie nouvelle donc pour l'apprentissage des langues. Donc il y a deux types d'originalité. Hein, mais je ne crois pas que celle-ci ait été mise en œuvre par d'autres. C'est la convocation donc de la sémiotique persienne. Je pense que c'est une nouveauté, hein, il me semble. Convocation de la sémiotique persienne, donc, dans la constitution de cet appareil critique. Et on ne peut être que extrêmement intéressé lorsqu'on lit, effectivement, les analyses que vous proposez au travers de l'appareil de la sémiotique persienne. Alors, peut-être que juste ce que je dirais, c'est que de temps en temps, on a plus l'impression d'avoir affaire à un éclairage grâce à la théorie persienne, qu'à un étayage véritable. Donc, hein, on a l'impression effectivement que dès que vous convoquez Peirce, les choses deviennent Enfin, c'est clair, oui, c'est vraiment cela. Donc, hein, par exemple, pour ce qui a trait à l'étonnement, hein, quand on est dans la démarche d'accent, la démarche dans la situation accent, effectivement, la convocation de la théorie torsienne est vraiment très très intéressante, à d'autres moments aussi, mais je ne vais pas beaucoup plus loin là-dessus. Et donc, autre démarche que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, enfin, autre originalité, je dirais, c'est la démarche d'enquête au sens de peur, ce que vous menez dans votre travail et en termes de projet d'écriture, hein, puisque l'écriture est totalement articulée à ce travail d'enquête que vous essayez de mettre au jour et de faire sentir à votre lecteur. Alors, un autre élément que j'ai trouvé particulièrement intéressant, parce que c'est vrai qu'il est peut-être moins pointé, c'est cette insistance sur le sujet. Cette insistance sur le sujet, dans sa rencontre donc avec la langue, et je trouvais cela particulièrement intéressant, et dans l'insistance sur votre insistance à créer les conditions donc de cette rencontre, pour que cette rencontre soit possible. Avec la langue réelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si je me souviens bien. Donc l'idée, c'est que ce sur quoi vous incitez tout particulièrement, c'est sur la mobilisation du sujet, donc sur son désir, sur son plaisir, je crois, dans dans cette approche de la langue, plus confrontation ou manipulation, dans cette approche de la langue étrangère. Et constamment, il y a cet accent qui est mis sur l'étonnement, donc qui va enclencher, et ça je l'ai vu aussi au travers des travaux sur le bébé, effectivement, c'est souvent au travers de l'étonnement que se produisent les premiers processus d'interprétation. Donc ça déclenche le processus, le processus d'interprétation. Alors, je vais faire quelques remarques, surtout parce que j'aurais voulu en savoir plus et parce que ces éléments apparaissent éparpillés, non pas, ce n'est pas une critique au sein de votre thèse. J'aurais voulu en savoir plus sur la conception du développement, de l'enseignement, ou de l'apprentissage, de l'enseignement-apprentissage qui vous habite. À un certain moment, donc vous citez énormément d'auteurs, hein, vous citez Piaget pour dire, vous dites tout d'abord que le GFM n'est pas constructiviste. Hein. Enfin, je me suis posé la question de savoir pourquoi il n'était pas constructiviste. Moi je vous ai trouvé très proche de Claparède d'une certaine façon, hein, dans votre démarche, mais Claparède s'est beaucoup inspiré de Dewey, de James, donc et c'est pas étonnant, hein, donc parce que chez Claparède par exemple il y a l'idée c'est pas si le dire comme ça c'est peut-être un peu brutal, mais retrouver entre guillemets l'enfant, alors là on est dans la psychologie de l'enfant, hein, Claparède. Retrouver l'enfant sous les lèvres, hein, contrairement à tout ce qui était. L'enfant, c'est plutôt défini dans la conception de Claparède contre les lèvres. L'idée, c'est de veiller, de prendre en compte le besoin de l'apprenant, son intérêt à atteindre un but. Hein, donc ça, c'est vraiment tout à fait clair. Je me suis dit, dans le fond, je trouve qu'il y a des éléments qui me semblent intéressants et qui vont dans ce sens-là. Donc de prendre en compte le besoin, l'intérêt à atteindre un but comme levier de l'activité, donc que vous souhaitez éveiller donc chez l'apprenant. Alors il y a cet élément-là, hein, qui est plus foncièrement orienté. Claparède, je dirais, mais Claparède, on le sait bien, a servi à Piaget à formuler sa conception du développement, hein, quand elle a été plus étayée et plus, je dirais, en tout cas plus étayée au niveau empirique, et qu'elle ait donné lieu à des modélisations qui allaient au-delà, je dirais, d'une conception fonctionnelle. Alors, il y a aussi, vous évoquez aussi Vallon, pour reprendre la question de la trialicité chez Vallon, ça j'aimerais, donc c'est juste cette question du développement de l'apprentissage que j'aimerais mieux comprendre, hein, d'un certain point de vue. Vous évoquez aussi Vallon en disant donc que ce qui vous a intéressé chez lui, c'est plutôt sa perspective triadique. Alors ce que j'aimerais bien comprendre, c'est comment vous la mettez en rapport, ou comment elle n'est pas en rapport avec la position de Peirce. Ça, j'ai pas tout à fait compris. Et par ailleurs, vous évoquez aussi Dewey, donc très souvent. Et je trouve, justement, quand vous évoquez la classe de langue, vous le faites. Bon, Dewey a donné naissance maintenant à un courant aux États-Unis qui est très, qui a le vent en poupe, qui s'appelle le courant de la cognition située. Et d'une certaine façon, je me suis dit qu'il y a aussi une forme de résonance par rapport à ce courant. Quand vous parlez de communauté, est-ce que c'est communauté, classe de langue, communauté, je crois que vous employez le terme de communauté à un certain moment.
Communauté linguistique.
Communauté linguistique, voilà. Et donc, on retrouve chez ces gens-là, qui s'inspirent de ce que je le disais, l'idée de communauté de pratique, mais c'est plus large que la communauté linguistique, et l'idée de l'engagement de l'apprenant, ça c'est quand même très fort dans votre travail, l'idée de l'engagement dans l'apprenant, de l'apprenant dans la situation et dans son apprentissage. Alors, simplement, par rapport à cette question du développement, j'aurais voulu en savoir plus, ou de l'apprentissage. Parfois, apprentissage et développement donc, sont, je dirais, m'apparaissent relativement similaires dans la façon dont vous les traitez. J'aurais voulu en savoir plus. Et puis, surtout, pour vous dissiper peut-être un doute que j'avais à un certain moment, où j'ai malheureusement pas pointé la page à ce moment-là, mais je saurais la retrouver à un autre moment, où il y avait peut-être une sorte de, je sais pas, de quelque chose comme une idée, quelque chose qui mettait en scène la théorie de la récapitulation. Donc retrouver le bon sauvage, mais je pense que c'était quand même pas cela. Hein, non. Donc ça, c'est une question que je me suis posée. Alors, voilà pour cette première question, par rapport, vous pouvez répondre très, je veux dire, très simplement. Et puis par rapport peut-être aussi à Vygotsky, donc, que vous évoquez parfois, tout en disant que vous n'êtes pas trop d'accord sur sa conception de la signification, ou je ne me rappelle plus à un certain moment. Hein. Par ailleurs, une chose qui m'a un tout petit peu questionnée, c'est... peut-être ce rejet des didactiques, mais je crois, ou de la didactique, dans la mesure où les didactiques ont quand même pensé un certain nombre, ont pensé la classe, ont pensé aussi le savoir aussi, ont conçu le concept de transposition que vous utilisez par ailleurs. Et je me suis dit que peut-être l'attaque frontale, enfin, l'attaque très directe des didactiques au départ, bon, d'une certaine façon, je ne connais pas assez bien la didactique dans l'apprentissage de langues étrangères, mais je trouvais qu'elle, elle mettait un peu dans l'ombre justement ce côté extrêmement intéressant des concepts qui sont formulés sur le terrain de la didactique et qui aident à comprendre ce qui se passe dans la situation de classe. C'est quand même une situation artificielle et qui n'est pas une situation naturelle. Hein. Par ailleurs, il y avait une autre question, parce que vous développez une vision beaucoup plus anthropologique, je dirais, qu'une vision socio-historique. Ça, je m'en arrêterai là. Tout à l'heure, quand j'ai évoqué la communauté de pratique, vous parlez de communauté linguistique, je pense que d'une certaine façon, enfin, ce n'est pas votre objet, hein, certes, je le conçois. Vous êtes plutôt sur le versant apprenant que sur le versant quand même savoir, enfin, d'une certaine façon. Mais vous pourrez vous me répondre, hein, bien sûr. Mais je veux dire que. Comment pourrais-je formuler cela? L'aspect socio-historique de la langue, les mots sont importants, mais il y a des formes aussi, des genres, il y a des choses très particulières dans la langue qui ont trait aux formes sociales. Et la question, vous n'en parlez pas. Pas ou peut-être peu, et j'aurais voulu savoir comment ça pouvait s'articuler donc avec votre propos. Voilà. Alors je m'en arrêterai là, vous voyez, donc c'est un regard touristique. critique, et un petit peu, enfin, disons, je voulais surtout en savoir plus par rapport à la première question que je vous ai posée.